Ce mardi, le 22 mai, à Paris, c'était les premiers états généraux du livre. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Le livre, c'est pourtant le premier secteur culturel en France. En 2016, 437 millions de livres achetés par les Français. Chiffre d'affaires, 6 milliards d'euros en totalité. Ça mérite au moins un entrefilet. Allez, peut-être même un billet, parce que cette réunion qui a fait salle comble à la Maison de la Poésie, malgré les 5 chaises vides des membres du gouvernement, président et ministre concernés, invités mais pas présents, ça a été l'occasion d'interroger un certain nombre de métiers. À commencer par le métier d'auteur. Tiens, qui, comme le dit si bien la romancière Cécile Coulon, effraie les parents et fait rire les banquiers. Parce que auteur, figurez-vous, ça n'est pas vraiment considéré comme un métier. Pour citer la jeune romancière dans un texte qui a été lu par Carole Zalberg, le taux horaire, ça n'existe pas, les RTT, ça n'existe pas, les discussions autour de la machine à café avec Martine de la Comta, ça n'existe pas, l'arrêt maladie, ça n'existe presque pas, les tickets resto, ça n'existe pas, et tant mieux, on reste mince. En revanche, le fait de cotiser à partir de nos droits d'auteur et de ne pas bénéficier de la protection que ces cotisations sont censées produire, bah ça c'est la réalité. Le romantisme des métiers du livre, vous savez, si chic sur le papier, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on répond à votre avis quand on vous demande tout simplement c'est quoi votre métier ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel est au juste le métier de mon invité d'aujourd'hui ? Elle qui depuis 30 ans se glisse dans la langue des plus grands auteurs anglo-saxons, de Virginia Woolf à Philip Roth en passant par Kerouac ou John Irving, on lui doit la toute nouvelle traduction du classique de George Orwell 1984 qui vient de reparaître hier aux éditions Gallimard, un texte violemment actuel évidemment qu'elle a su conjuguer au présent. Bonjour José Camus.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est un métier, traductrice ?
Oui, c'est une question qu'on s'est souvent posée. Et c'est une activité à n'en pas douter. Oui, je crois que c'est un métier. Alors, ça dépend ce qu'on entend par là. C'est certainement pas un métier, j'allais dire, patenté et talonné. Il n'y a pas de diplôme qui vous garantisse de devenir traducteur. Il y a néanmoins une école de traduction LISIT qui, je pense, fait un très beau travail depuis plusieurs années. Et aussi, évidemment, avec le temps, vous prenez du métier dans la traduction. Et le métier, ça veut dire bien entendu l'expérience, de penser rapidement, avoir lu les littératures dans les deux langues et continuer bien entendu, et avoir ce qu'on appelle assez fréquemment, quand on enseigne, des réflexes de traducteur. Mais peut-être que tout à l'heure on verra que le métier parfois peut tuer l'art.
Mais le métier c'est aussi un statut, en l'occurrence un statut social, des droits sociaux. José Camus, il en a été question dans ses états généraux du livre qui se sont tenus il y a 3 jours, comme tous les métiers du livre, la traduction en est un. Qu'est-ce qui reste encore à faire ? Comment défendre votre métier ?
Oh, si vous voulez le dire sur le plan statutaire, ça me paraît assez difficile et je ne crois pas qu'on aille vers du mieux. Les traducteurs sont, je pense que tout le monde le sait, pauvrement payés.
Quel statut est-ce que vous avez ?
Statut d'auteur, puisqu'on touche des droits d'auteur, et que quand le livre se vend bien, effectivement, c'est tout bénéfice, je dirais. À part ça, je pense que nous n'avons pas véritablement de statut, et que rien ne garantit vraiment ce métier, puisque à peu près n'importe qui peut traduire, et d'ailleurs, a traduit.
C'est intéressant que vous utilisiez le mot auteur. Effectivement, l'article L112.3 du Code de la propriété intellectuelle considère le traducteur comme un auteur. Dans quelle mesure, pour vous, c'est le cas ? Dans quelle mesure le traducteur, c'est lui aussi un auteur ?
Il ne peut pas contester qu'il est l'auteur de sa traduction.
Oui.
Ça, je ne peux pas le contester. Mais je n'irai pas tellement dans le sens... j'ai l'impression parfois, si vous voulez, que certains traducteurs ou certaines personnes qui pensent à la traduction se la racontent. Le traducteur n'est pas un créateur. Sans aucun doute, c'est un créatif. Sans aucun doute, c'est un recréateur. C'est un passeur, c'est tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas l'auteur du texte. Il est l'auteur de la traduction. C'est un interprète, c'est, si vous voulez, le metteur en scène de La Nuit des Rois n'est pas l'auteur de La Nuit des Rois. Et celui qui interprète la sonate à Kreutzer n'en est pas davantage l'auteur.
Pour autant, José Camus, il vous est arrivé de vous sentir invisible, invisibilisé en tant que traducteur ? Pas assez mis en avant.
Pas assez mis en avant. Comment vous dire, c'est assez paradoxal. Et je pense que l'ego du traducteur doit être à géométrie variable. Sinon, il fait un autre métier. Il va vers la frustration et le dépit. Et c'est pas une bonne idée. Je pense que dans le fantasme du traducteur, et les fantasmes, parce qu'ils sont complexes, il y a aussi celui du passe-muraille. Et d'une certaine façon, il n'est pas fâché qu'on ne le voit pas. Sinon, il va écrire lui-même, vous voyez ?
Je le disais en début d'émission, vous avez traduit d'immenses auteurs et j'aimerais qu'on entende la voix de l'un d'eux. Je pense que vous avez déjà deviné de qui je vais parler.
Après tout, écrire, c'est quoi ? C'est fabriquer un objet à partir de mots qui se fait passer pour la réalité. Et mon objectif, c'est de fabriquer cet objet. Qu'il soit entier, fini idéalement, qu'il soit solide. Je ne cherche rien d'autre. Je n'ai pas d'ambition politique pour mon livre. Je n'ai pas de projet moral, ni de projet éthique. Je ne suis guidé que par l'éthique du roman, en tant qu'œuvre d'art.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la voix de Philippe Roth, José Camoun?
C'est très émouvant, c'est très intime. Roth savait que c'était très important pour moi de l'entendre lire sa prose. Et on en plaisantait beaucoup, je lui disais « Her master's voice, la voix de son maître, lisez-moi s'il vous plaît ». Et lorsque j'avais été bien sage, il lisait. Et je me souviens qu'une fois, à l'issue d'un long travail, probablement sur « La bête qui meurt », je ne suis plus très sûre, mais je pense que c'était ça, il m'a emmené au restaurant dîner. On était absolument épuisés tous les deux. Et je lui dis, maintenant, j'ai droit à ma récompense. Il m'a dit, d'accord. Et donc, il a lu une page à ma demande. C'est la page de la tâche où on voit Fonia qui traie les vaches devant Coleman. Et c'était tellement fort, ce passage. C'était tellement fort que pendant qu'il lisait, je comprenais bien que les larmes roulaient sur mes joues. Mais je n'y pouvais rien, donc je me taisais bien sûr, en espérant qu'il n'y verrait que du feu. Et à la fin de sa lecture, il a levé les yeux, il m'a vu bien sûr, et il a dit très doucement cette phrase énigmatique « And now, my dear, you're seduced. » Et maintenant, chère amie, vous êtes séduite.
Il était drôle.
Pire que drôle. Pire que drôle, c'était un one-man show en permanence, c'est-à-dire quand on travaillait 6-7 heures d'affilée et que je lui posais toutes les questions que j'avais besoin de lui poser sur son œuvre, il digressait, Newark apparaissait, il était capable de vous croquer une personne et d'ailleurs de vous assassiner une personne en 2-3 formules et il créait la vie en effet, quand il dit dans son vocabulaire d'une simplicité, je dirais presque ascétique, hein, quand il dit ce qu'il fait, je fabrique un objet, etc. Mais ce don qu'il avait d'évocation, l'éloquence du détail, si vous voulez, c'était fabuleux, si bien que je le quittais le soir, épuisé certes, mais aussi avec quelque chose de très cocasse, des courbatures aux pommettes, tellement j'avais ri.
Le premier livre que vous ayez traduit de lui, José Camoun, c'était Pastorale américaine, en 1999. Quelle langue est-ce que vous avez découvert alors?
Alors justement, moi j'en étais restée tout bêtement à Portnoy's Complaint et j'ai accepté une pastorale américaine sans discuter en quelque sorte et même sans l'avoir vraiment très bien lu. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du jackpot que j'avais décroché. C'est-à-dire que c'était à la fois beaucoup plus génial mais aussi beaucoup plus ardu que je ne l'avais pensé.
Oui.
Alors cette langue n'est pas très facile à traduire. Non, alors, c'est un peu polysémique, mais c'est surtout que je dirais que la phrase rothienne, elle épouse le tempo de sa libido, de son énergie débordante. Et donc parfois, elle va, c'est une espèce de montée d'enchères. Vous
jusqu'à
voyez
la jouissance.
Ah, souvent. Et alors donc, il y a ce tempo qui est extrêmement variable, si vous voulez, qui est flexible. En plus, c'était un pianiste, Roth, hein, c'était un musicien. Et donc, il avait un sens du rythme qui était chevillé au corps, je dis bien au corps. Ça faisait partie des traces de son corps dans son écriture. C'était quelqu'un qui avait à la fois cette énergie, justement, cette libido. Il était bandé comme un arc, et j'emploie l'expression à dessein. Et en même temps, il était d'une maîtrise totale sur cette énergie.
Ce qui est passionnant, c'est que vous avez travaillé avec lui. C'est assez rare, ça, non, pour une traductrice.
Mais c'est inédit. J'allais dire, c'est sans exemple. Alors, je ne sais pas si c'est sans exemple, mais année après année, la maison Gallimard m'a envoyé à ses frais passer une semaine à New York à la fin de chaque roman. Et là, je réfléchissais hier, d'ailleurs. C'est la première fois que je m'en rends compte de manière rétrospective. Non seulement sur le plan professionnel, évidemment, c'était prodigieux, puisque je pouvais tout lui demander. Sa patience était absolument inlassable. Hein. Mais au fond, quand on avait parlé de tout, quand il y avait eu ces pyrotechnies, hein, son humour, etc., petit à petit, on descendait dans les choses graves, les choses noires, les choses... le noyau de l'être humain, c'est-à-dire le sexe, la mort, la perte.
Et c'était la condition nécessaire pour proposer une bonne traduction de Philippe Roth, à votre avis?
Je le crois. je le crois, parce que c'est une œuvre violente. On ne s'y attaque pas impunément. Il faut bien quelque chose. Et je me dis maintenant que non seulement j'ai eu ça, mais où j'ai eu en face de moi simplement l'être humain. Nous étions d'humain à humain. Oubliez la classe sociale, le genre, le sexe, l'âge. Oubliez tous ces oripeaux sociaux. Nous nous regardions dans les yeux et nous étions dans ce dénuement de la vérité humaine.
Celle qui est humaine, dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, José, et qui se passe de traduction aussi, c'est la culture et son actualité tout en onomatopée, monosyllabes et borborygmes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 25 mai?
El premio Princesa de Asturias de las Letras 2018 a la escritora francesa Fred Vargas.
Prix Princesse pour la reine du polar, Fred Vargas a reçu hier le prix Princesse des Asturies pour l'ensemble de son œuvre, genre de Nobel de littérature du monde hispanophone. La récompense salue cette fois une écriture qui mêle intrigue, action et réflexion et un rythme qui rappelle la musicalité caractéristique de la bonne prose en français. C'est une citation. En plus de 50 000 euros, chaque lauréat de ce prix reçoit une sculpture de Miro, Banco Banco, Super Banco. Villette Sonic, plaisir tonique, la 18e édition du festival hédoniste et ensoleillé investit dès aujourd'hui le parc de la Villette. Gazon, rosé glaçon et bon son pendant 5 jours, une quarantaine de concerts vont s'enchaîner, le plus souvent gratuits et ouverts à tous. On attend le grand retour des Bretons cultes du Marquis de Sade, les Écossais perchés de Mogwai et le DJ Brit James Holden, on aime. Levé des rideaux sur la comédie du livre, la ville de Montpellier accueille dès aujourd'hui la 33e édition de ses rendez-vous littéraires et curieux, consacrée cette année aux lettres néerlandaises et flamandes. On pourra notamment y croiser Anna Enquist, Toine Heijmans ou Herman Koch et les Français Alice Zeniter, Eric Vuillard ou Yvan Jablonka. Allez là!
Bendero, Bendero, c'est l'histoire de Bendero. Un truc pas très rigolo, pourtant ce mec était réglo. Régler ses dettes, c'était chose faite. Faire de l'argent, il savait faire.
Je vous le dis, heureusement, c'est vendredi. Alors on monte le son et on sourit. Car dans les bacs, aujourd'hui, on garde la banane avec le Bendero. Moi à la squale, le jeune prodige du rap français qui vient de révéler son premier album. On branche HH d'iPhone iPhone sur notre iPhone iPhone. Et sinon, on croune calmement avec la même tribu volume 2 de notre canaille préféré Eddie Mitchell, qui sera notre invité lundi. Oh oui. Et l'immense traductrice José Camoun, invitée de Boomerang ce matin pour sa nouvelle traduction de 1984 de George Orwell, notamment qui a paru hier, il faut le rappeler, la dernière avant celle-ci datée de 1950. Quel était l'intérêt d'une nouvelle traduction et donc d'un nouveau texte, selon vous ?
Mais de toute façon, la traduction, ce n'est pas quelque chose de définitif.
Oui.
Toute traduction étant parcellaire, le traducteur s'y engage tout entier, mais j'allais dire, il n'engage que lui.
Et puis il y a des traductions qui vieillissent mal, je suppose.
Sûrement, mais je veux dire, on parle toujours de dépoussiérer les traductions, bien sûr qu'il y a des traductions qui vieillissent mal, mais je pense qu'on a tort d'imaginer que l'original existerait dans sa vérité marmoréenne et immarcessible, pour employer un mot bizarre, et que de son côté, la traduction vieillirait. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais la traduction étant une interprétation, une lecture du texte, il serait bien fâcheux, bien dommage de se cantonner à une traduction. Autrement dit, ce que je veux dire, on pourrait avoir une traduction brillante, fameuse, passionnante, et la refaire 10 ans plus tard. Nous, les traducteurs d'une œuvre, d'une même œuvre, nous sommes un cœur. Ce n'est pas forcément un cœur harmonieux, il y a du discord dedans, mais la construction de l'œuvre, l'œuvre elle-même, elle se construit à travers nous, si vous voulez.
Vous avez pu avoir cette envie de retraduire justement un texte que vous aviez traduit auparavant ?
Absolument. Si vous voulez, quand j'étais encore assez jeune traductrice, on m'a proposé de traduire les nouvelles de Virginia Woolf. Et j'étais très impressionnée, comme on peut l'imaginer. Je parlais avec un collègue qui n'avait aucun rapport avec la traduction et je lui disais « Oh, mais j'ose pas, et si je rate ?» Et celui-ci a eu les mots magiques. Il m'a répondu « Mais si vous ratez, ben vous recommencerez dans 10 ans, ou encore quelqu'un d'autre le fera derrière vous. Ce que j'ai manqué, d'autres traducteurs le feront derrière moi. »
Alors la particularité de votre traduction de 1984, c'est d'avoir traduit le prétérit du texte anglais, souvent traduit au passé simple en français, par un présent. Pourquoi ce parti pris, José Camoun ?
Alors, ce parti pris s'est imposé à moi au bout de quelques semaines. Alors, on ne va pas entraîner les auditeurs dans des considérations linguistiques trop techniques.
Même si on aime bien.
Même si on aime bien, mais on va essayer d'être, enfin, je vais essayer d'être aussi clair et basique que possible. possible. Déjà, je vais commencer par dire que le prétérit en anglais, c'est le temps de tous les récits. De tous les récits. C'est-à-dire que vous disiez « Et le soleil se coucha glorieusement sur la victoire d'Austerlitz » ou que vous disiez « Bah dis donc, j'ai croisé Jean-Claude sur le chemin du supermarché ».
C'est un prétérit.
C'est un prétérit en anglais. Donc il n'y a pas de distance en anglais entre la langue orale et la langue écrite par le prétérit. C'est le temps de tous les récits. Il n'en va pas de même en français, ça vous aura pas échappé. Rares sont ceux entre nous qui diront « Le croiras-tu, je croisais Jean-Claude tout à l'heure en allant au supermarché ». Ce qui veut dire que notre passé simple, quoi qu'on en ait, si vous voulez, il va introduire cette distance un peu cérémonieuse. Mais c'est pas le seul problème. C'est qu'une fois qu'on aura enclenché le passé simple, on va avoir en cascade, à cause de la concordance des temps, des plus que parfaits, bien entendu, hein, et last but not least, des imparfaits du subjonctif. Autrement dit, vous avez une langue très naturelle en anglais dans 1984. Je ne dirais pas oralisée, mais parfaitement spontanée et naturelle. C'est la conscience du personnage. Hein, c'est la troisième personne, le récit est à la troisième personne, mais nous sommes dans la conscience du personnage. C'est largement son monologue intérieur, on va dire. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui est cruellement empoulé. Et ça, c'était pas possible.
Et puis, choisir le présent, José Camoun, c'est aussi en faire un texte du présent. Qu'est-ce que ce texte, pour vous, qu'il avait donc réécrit, quelque part, dit d'aujourd'hui ?
Oui, il dit bien des choses. Je pourrais évidemment convoquer l'actualité, notamment l'actualité chinoise, qui n'est quand même pas très rassurante. Parce qu'on a beaucoup parlé de 1984 à propos de Trump, des fake news.
Des États-Unis.
Des États-Unis, certes. Mais regardez ce qui se passe en Chine. La technologie permet maintenant d'obtenir le résultat qu'on a dans 1984 sans violence. Juste par la technologie des caméras de surveillance à reconnaissance faciale qui vont vous dire que vous avez traversé, vous, piéton, au vert, que vous avez jeté votre mégot, et ça vous fait des points en moins sur votre permis, sinon de vivre, du moins de vivre bien. Et c'est pas demain, c'est maintenant.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte immense sur la langue, sur l'écriture, où écrire se transforme en acte de résistance aussi. J'aimerais lire un court extrait de 1984 dans votre traduction, José Camoun, si vous êtes d'accord. Ce qu'il se prépare à faire, c'est commencer un journal. Ce n'est pas illégal, puisqu'il n'y a plus de loi, mais si cette activité était découverte, il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort ou d'au moins 25 ans de travaux forcés. Winston ajuste une plume au manche et la suce pour en éliminer la graisse. Instrument archaïque, la plume sert rarement, même à signer. Et il s'en est procuré quelques-unes avec difficulté, en catimini, parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux méritait une vraie plume, plutôt qu'un stylo à encre qui les gratignerait. À vrai dire, il n'a pas l'habitude d'écrire à la main, sauf des notes très courtes, puisque d'ordinaire, tout passe par le parle-écrire, exclu en l'occurrence pour des raisons évidentes. Il trempe la plume dans l'encre et hésite une seconde, la peur au ventre. Marquer ce papier constitue un geste irrévocable. Le parle-écrire, José Camoun, speak-write en anglais,
oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Le parle-écrire, c'est cette espèce de micro qui enregistre tout ce que vous dites. Et je trouve très intéressant que vous ayez cité ce passage-là. La première chose qui va venir à l'esprit des auditeurs, c'est qu'il entre en résistance par l'acte d'écrire.
Oui.
Ce qui, bien sûr, est tout à fait vrai. Et ça nous renvoie aussi aux dissidents soviétiques, enfin tous les dissidents d'ailleurs, hein, des régimes totalitaires. Mais ce que je trouve passionnant dans votre lecture, et qui ne m'était pas, en fait, ce n'est pas venu à l'esprit précédemment, c'est que la place du corps dans 1984, qu'on a largement ignoré dans la critique, parce qu'on s'est polarisé sur autre chose, bien sûr, qui frappe n'importe quel lecteur, la place du corps est prépondérante et elle va être négociée avec toutes sortes de métamorphoses au cours du roman. La deuxième partie, avec la rencontre du sexe et de Julia, la deuxième partie, c'est l'explosion, l'exultation des sens. Et en réalité, je vois dans ce geste quelque chose qui va préfigurer cette révélation charnelle. Parce qu'il ne cause pas dans le parle-écrire, pour les raisons que, bien sûr, on a comprises. Mais aussi, il a été prendre cette plume, instrument archaïque. Il y a l'odeur du papier, il y a la consistance du papier. Il revient à son corps, qu'il a tellement mis entre parenthèses dans ce régime pénurique.
Quel geste c'est que de traduire, José Camoun, pour vous, puisqu'on parle de corps ?
Quel geste ? Eh bien, écoutez, c'est un geste chamanique. Et oui, c'est du chamanisme sans les risques. Le traducteur rêve, évidemment, de se glisser non seulement dans la peau d'un autre, mais dans la voix d'un autre. C'est ça la grande affaire de sa vie. Et par exemple, lorsque je traduisais La Tâche, il y a des passages qui sont ceux du vétéran du Vietnam devenu à moitié fou et qui est dans l'invective et l'imprécation. Donc tout me sépare de lui, si vous voulez, hein. c'est facile à comprendre, j'entre pas dans le détail. Eh bien, traduire les imprécations de ce personnage, qui n'est que haine, vindicte et testostérone, ça m'a donné une puissance.
On va reparler, évidemment, de langue, de création de mots, de grands textes. Juste après, Bob McFadden, tiens, la lectrice et traductrice de Kerouac, que vous êtes, devine déjà pourquoi. The Beat Generation, 1959. Vous êtes sur France Inter, avec José Camoun. Vous écoutez Boomerang, ou Boomerang, ça dépend des jours.
Some people like to rock, some people like to roll. But me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. Well, man, well, I belong to the B generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the B generation, and everything's going just fine.
Weirdsville, yeah.
Some people say I'm lazy and my life's a wreck, but that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in sandals, I never ever shave, and that's the way I wanna be when someone digs my grave.
Put a beat in the White House.
I belong to the B generation, yeah. I don't let anything trouble my mind.
Sneaky Pete,
yeah. I belong to the B generation, and everything's going just fine.
Back on the road.
I once knew a man who worked from 9 to 5. Just to pay his monthly bills was why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a one-room pad where I can make the scene.
So out it's in.
I belong to the B generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the B generation, and everything's going just fine.
Oh, oh man, poetry and jazz there.
I belong to the B generation.
Yeah.
I don't let anything
man, that's my
trouble
story.
My mind. Hey.
Let's flip for the coffee house.
I belong to the B generation.
Man, we've made this scene long enough.
I belong to the B generation.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle a ce côté professeur préféré, vous savez, celle qu'on ne décevrait pour rien au monde. On s'imagine assis au premier rang, levant la main pour un oui, pour un non, se précipitant pour effacer le tableau, jamais, contre un devoir supplémentaire, prenant sa défense dans le cours de récré contre Jean-Baptiste Bilire, qui décidément n'est pas très Charlie cette année. Elle est là, devant moi, tout en noir, avec son collier de perles, José Camoun, invité de Boomerang, ce matin, pour partager avec nous son art de la traduction. On l'a compris, et j'aimerais qu'on parle d'un des plus grands textes que vous ayez traduit, un des plus grands textes jamais écrits. En l'occurrence, en tout cas à mon sens, je veux parler de Sur la route de Kerouac. Ma question avant toute chose, c'est celle de votre regard. Qu'est-ce qui fait pour vous un grand texte, José Camoun?
Ah ben, celui-là, on va dire qu'il est tout à fait emblématique. C'est un bon choix peut-être, parce qu'il va réunir, me semble-t-il, le temps et l'espace. Donc il a cette espèce de vision assez colossale du continent. Et cette vision colossale du continent, qui apparaîtra dans la dernière page, mais qui apparaît en filigrane tout le temps, je dirais, hein, elle est proprement épique en quelque sorte. Hein, mais c'est une épopée d'une petite foule comme ça, d'une petite foule de pèlerins déjantés. Donc à la fois c'est l'épopée, c'est collectif, et c'est dans l'intimité de cette conscience individuelle qui est confrontée à l'immensité du continent et probablement aussi à la dimension spirituelle de cette immensité du continent. Donc il y avait le rapport entre le temps et l'espace, que je trouvais magistral, et il y a aussi le rapport, et ça va avec, entre le son et l'image.
Oui.
C'est-à-dire qu'au fil de ce roman, on a des images fantastiques qui nous parlent tellement, qui sont tellement colorées, qui sont tellement inattendues, parfois. Il ne faut pas oublier que Kerouac, enfin, c'est lui qui le disait, hein, moi je ne le sens pas particulièrement dans sa prose, mais il n'est pas anglophone, c'est pas sa langue maternelle.
C'est aussi l'épopée d'une langue, effectivement.
Et c'est l'épopée d'une langue acquise et magnifiquement poétisée, je dirais. Et alors, ce qui me fascinait, et ce à quoi je me suis appliquée, c'était de rendre la musique... Alors, la musique de la langue, on ne peut pas la rendre parce que le français, quoi qu'on en ait, ne fera jamais la musique de l'anglais, pour toutes sortes de raisons, notamment les accents toniques et l'accentuation aussi, l'intonation de la phrase. Néanmoins, je pouvais essayer de recréer des changements de rythme, des brèves et des longues. Et comme je vis entourée de musiciens, mon fils est musicien, j'ai beaucoup d'amis musiciens, je me disais, il faut absolument que j'aie ça. Parce que si j'ai pas ça, c'était pas la peine de le retraduire.
On veut l'entendre, cette langue, José Camoun. C'est un passage de Sur la route que vous avez choisi de nous lire ce matin, la dernière page.
Oui, la dernière page.
On vous écoute ?
Oui. Cette montée lyrique de la prose de Kerouac. Alors en Amérique, quand le soleil décline et que je vais m'asseoir sur le vieux môle délabré du fleuve pour regarder les longs, longs ciels du New Jersey, avec la sensation de cette terre brute qui s'en va rouler sa bosse colossale jusqu'à la côte ouest, de toute cette route qui va, de tous ceux qui rêvent sur son immensité. Et dans l'Iowa, je sais qu'à cette heure, l'étoile du berger s'étiole en effeuillant ses flocons pâles sur la prairie. Juste avant la tombée de la nuit complète, bénédiction pour la terre qui fait le noir sur les fleuves, pose sa chape sur les sommets de l'ouest et borde la côte ultime et définitive. Et personne, absolument personne, ne sait ce qui va échoir à tel ou tel, sinon les guenilles solitaires de la vieillesse qui vient. Moi, je pense à Neil Cassady. Je pense même au vieux Neil Cassady, le père que nous n'avons jamais trouvé. Je pense à Neil Cassady. Je pense à Neil Cassady.
Est-ce que vous aussi, José Camoun, encore aujourd'hui, après l'avoir traduit, vous pensez à Neil Cassady ?
Il m'habite. Les textes que j'ai traduits m'habitent.
Se peut-il qu'à un moment donné, vous deveniez l'auteur, à ce moment-là, face à un texte comme celui-ci ?
Vous voulez dire, ce chamanisme arrive-t-il au bout ? Oui, je disais avant qu'on commence que... Qu'est-ce qui peut donner le courage à un tout petit traducteur comme moi, un petit poussé, d'aller s'attaquer à ces textes immenses ? Eh bien, c'est que je suis le petit poussé, justement. C'est-à-dire qu'au-delà des ressources techniques, du métier dont on a parlé tout à l'heure, qui fait que je l'aborde de manière méthodique et rationnelle, il y a aussi du fantasme. Et le fantasme est celui-ci. C'est-à-dire que le texte est un ogre. C'est l'auteur et son texte sont un ogre endormi. Donc j'attends qu'il s'endorme et j'arrive à pas compter. Je retire les bottes de sept lieues. J'enfile les bottes de sept lieues, moi le petit poussé. Et croyez-moi, je cours encore.
Il y a aussi la question de la responsabilité du traducteur qui se pose quand même. C'est presque une question morale. Quand on est face à une page comme celle-ci, la dernière de Sur la route de Kerouac, qui est l'une des plus grandes pages, je le disais, de la littérature mondiale, quelle responsabilité est-ce qu'on a ?
C'est vrai qu'elle est immense, mais comme on le disait tout à l'heure, comme aucune traduction n'est ultime, cette responsabilité se partage avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Moi, j'ai vraiment une conception, j'allais dire très océanique, pour reprendre un terme freudien, très océanique de la traduction. La traduction, c'est un cœur. C'est un cœur, encore une fois, il n'est pas forcément harmonieux. Il n'y a aucune traduction à mettre au panier. Et il n'y a aucune traduction à porter au pinacle comme étant définitive.
Ça veut dire que cette traduction, vous ne l'avez jamais achevée ?
Absolument. Je ne l'ai jamais achevé. Évidemment, je me garde bien de regarder mes traductions parce que j'y trouve toujours à redire, vous imaginez bien. Et qu'en même temps, on ne va pas ressasser toute une vie les choses qu'on a ratées. Je me dis cette chose merveilleuse, les autres qui arriveront derrière moi réussiront ce que j'ai raté.
Merci infiniment, José Camoun, d'être venu faire un tour dans cette émission. Quelle chance de vous entendre à ce micro. Je rappelle que Sur la route de Kerouac ainsi que 1984 de George Orwell sont publiés chez Gallimard. Et comme je vous invite également à découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Philip Roth, surtout en ce moment, Pastorale américaine, J'ai épousé un communiste, La tâche, La bête qui meurt, Un homme, ou encore, je l'ai déjà dit, Pastorale américaine, mais c'est mon préféré, donc ça va. Merci également à toute l'équipe de Boomerang pour cette si belle semaine. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinery, Maud Ventura et Jean-Baptiste Audibert à lundi. Les amis, tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête, sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais pas la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'inverse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau.
La pluie, c'est vrai qu'il fait beau. Aurel San et Stromae sur France Inter. Quelle joie de retrouver Sonia De Villers maintenant. Je vais vous écouter.
Quelle joie de retrouver Aurel San et Stromae. Ouais. Je le trouve magnifique ce titre.
L'instant
salut Augustin.
Salut, à lundi.
Ciao.